On va se tourner au dernier chapitre de la lettre aux Hébreux, chapitre 13. Et c'est une constante dans la parole de Dieu. Beaucoup de religions, beaucoup de philosophie ou de psychologie vous donne des choses à faire. On vous dit il faut faire ceci, il faut faire cela. Et en fait, dans la parole, la façon dont Dieu procède, c'est de nous montrer d'abord tout ce qu'il a fait pour nous. Et basé sur tout ce qu'il a fait pour nous, de répondre en faisant certaines choses. Mais c'est très important de réaliser que avant de faire des bonnes actions, il faut connaître des vérités. La doctrine précède les devoirs dans la foi chrétienne. On peut faire des tas de bonnes choses pour des fausses raisons ou des raisons qui n'ont pas de valeur intrinsèque durable. On peut donner au Téléthon pour battre le record de l'an dernier. Alors, c'est pas mauvais en soi, mais c'est la mauvaise motivation. On peut donner à des personnes dans la rue pour se donner bonne conscience et se dire, maintenant que j'ai donné un bout de sandwich à ce SDF, maintenant je peux aller bien manger avec mes amis. Et ainsi de suite. Mais on a vu, donc, dans cette lettre, un bref rappel, rassurez-vous, la première partie de cette lettre, elle s'occupe de montrer que Jésus-Christ est supérieur à tout ce que représentait l'ancienne alliance. Jésus-Christ, si on devait résumer, il n'y a pas mieux. Ou Jésus-Christ, il est top. Il n'y a rien d'autre qui vaille mieux que lui. Et la lettre s'est attachée à nous montrer qu'il était supérieur aux anges, d'abord même aux prophètes, d'abord dès le départ, Dieu a parlé par les prophètes, mais maintenant il nous a parlé par le Fils. Il est supérieur aux anges, il est supérieur à la loi, c'est-à-dire les 10 commandements et tous ceux qui s'y attachent. Il est supérieur, encore une fois, il s'adressait à des juifs qui étaient venus à Christ, mais qui, sous la pression des persécutions, envisageaient de revenir à leur ancienne religion. Ils se disaient, c'est pas la peine de se prendre tout ce qu'on se prend sur la figure, on va revenir, c'était bien avant. C'était pas top, mais... Et il leur rappelle, non, même Moïse, Jésus-Christ est supérieur à Moïse. Jésus-Christ est supérieur aux grands prêtres. Il est supérieur aux sacrifices qu'il pouvait offrir. Il est supérieur au sang des animaux sacrifiés. Son sang est plus puissant. Et cette première partie... Elle va jusqu'au verset 10, 21. Et là, il commence à mettre en pratique. Il nous appelle à persévérer et à mettre en pratique ces vérités. Et là, il s'attaque à nos devoirs en tant que chrétiens. Mais encore une fois, ce n'est pas au devoir qu'il faut commencer, c'est à la raison pour laquelle il est bon de s'attaquer à ses devoirs, à savoir la supériorité de Christ et tout ce qu'il a fait pour nous. Et ça, c'est un grand principe. On ne peut pas dépasser ce que Dieu a fait pour nous et on doit le prendre en compte pour répondre et faire des choses pour lui, pour bénir, pour faire avancer son royaume, pour bénir les autres. Mais si on met la charrue avant les bœufs, on va se planter, comme on dit. La vérité, le plus long chemin qu'elle a à parcourir, ce n'est pas les 10 000 ou les 20 000 kilomètres qui nous séparerait d'un pays où l'Évangile n'est pas encore connu, une terre de mission lointaine, avec tout son attrait un peu mystique, mais valable. dans la distance la plus longue que la vérité doive parcourir, ce sont les 35 cm qui séparent notre tête de notre cœur. Et le cœur, quelqu'un a dit, le cœur n'est pas capable de croire ce qu'il refuse de mettre en pratique. Vous pouvez avoir des grandes théories généreuses, mais si vous ne les mettez pas en pratique, le cœur, votre propre cœur, va pas être dupe. Et il va savoir que d'un côté vous parlez et de l'autre côté vous vivez quelque chose de différent. Au verset 22 du chapitre 10, il disait « Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Et verset 24, « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. » En fait, il nous invite à trois choses, donc, à la foi, à l'espérance et l'amour. Ça vous rappelle sans doute Paul qui disait dans 1 Corinthiens 13:13 qu'il y avait trois grandes vertus, trois choses qui demeuraient. Il disait la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. On ne va pas commenter ce verset, mais simplement remarquer qu'en fait, le reste de la lettre aux Hébreux, les chapitres 11, 12 et 13, abordent chacun de ces thèmes à la suite. Le chapitre 11, c'est bien sûr le grand chapitre de la foi. On a vu une définition, une description de la foi, et un rappel de la vie de ces héros de la foi qui n'étaient pas des hommes différents de nous, mais qui étaient habités par une foi qui les poussait à l'action. Et on peut faire partie de ce chapitre 11 si on est animé par une grande foi, même par une petite foi, mais qu'on la laisse nous amener à l'action. Et puis, il a parlé au début du chapitre 12 de l'espérance qui est la nôtre. Il nous a rappelé que nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins et qu'on devait espérer sans fléchir, car celui qui fait la promesse est fidèle. Et puis le chapitre 13 que nous abordons aujourd'hui, on pourrait dire que c'est le chapitre qui fait référence à l'amour. On va lire les 6 premiers versets et les commenter un peu, sachant que chacun des thèmes qui sont abordés mériterait une série d'études approfondies. Mais c'est bon aussi d'avoir une vue plus haute un peu de ce qui nous est dit pour pas se perdre dans le détail. Et c'est vrai que nous avons tendance à enseigner les livres de la Bible verset après verset. Et des fois, il est bien de prendre un peu plus de recul pour voir d'où on est venu et où on va. Mais là, on va lire ces 6 premiers versets. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont sans le savoir logé des anges. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers avec eux, et de ceux qui sont maltraités comme si vous étiez dans leur corps. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien, Que peut me faire un homme ? On a à répondre à l'amour de Dieu, qui est un amour inconditionnel. C'est l'amour, vous connaissez le terme en grec, agapé, qui définit un amour qui trouve sa justification non pas dans l'objet de l'amour, mais dans celui qui le donne. C'est une décision d'aimer l'autre, quelle que soit sa réponse. Et c'est ainsi qu'il est dit dans le fameux verset le plus célèbre de la Bible, Jean 3,16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et cet amour Dieu a donné, c'est cet amour agapé. Il n'attendait pas d'avoir une réponse avant de le donner, comme nous avons trop tendance à le faire. On aime les gens qui sont capables de répondre à notre amour. Mais les gens qui nous causent des problèmes, les gens qui nous haïssent, c'est beaucoup plus difficile de les aimer. Et là, s'il est question de l'amour, c'est intéressant de noter que le terme qui va revenir, que ce soit pour l'amour fraternel ou l'amour l'amour des étrangers, l'amour de l'argent, il est bien entendu c'est dans le sens négatif pour le dernier, mais c'est un jeu de mots qu'il utilise en fait, l'auteur de cette lettre. Certains pensent qu'à coup sûr que ça doit être l'apôtre Paul, et c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de son style et de sa doctrine, peut-être pas de son style, et on ne sait pas, on n'est pas sûr parce qu'il n'a pas signé, il n'a pas fait de référence à cette lettre comme étant écrite par lui. On sait qu'il y a différentes théories, c'est peut-être Apollos et Prisca ou Apollos ou d'autres qui ont écrit cette lettre, peu importe, on sait que c'est le Saint-Esprit qui l'a écrite. Elle est divinement inspirée, on le voit par les thèmes, par les vérités qui sont annoncées, et par le fait qu'elle ait été acceptée comme une lettre digne d'être reçue dans les églises. On sait que c'est l'Esprit Saint qui parle. Et quand il utilise le mot d'aimer, presque en jeu de mots, il utilise le mot Philadelphia. Il utilise le mot philoxénia et puis il va utiliser le mot philoargura. Alors, je ne sais pas pour vous impressionner avec ma connaissance du grec. N'importe qui aujourd'hui peut aller sur Wikipédia et trouver les explications. Mais c'est un peu comme il sait qu'on est l'amour agapé. C'est le top. Et le Saint-Esprit déverse dans nos cœurs cet amour agapé. Mais là, il nous dit simplement d'aimer au moins au niveau philéo. Le mot utilisé pour amour, c'est l'amour de camaraderie, c'est l'amour fraternel. C'est pas nécessairement l'amour qui va mourir pour l'autre, bien que ce soit ce à quoi on puisse aspirer. Il y a bien d'autres passages qui nous disent d'être prêts à donner notre vie pour nos frères et sœurs. Mais là, c'est un peu comme le Saint-Esprit nous dit au moins, faites ces choses-là. Et il nous dit tout d'abord, persévérez dans l'amour fraternel. Il nous dit d'aimer nos frères et sœurs. Il ne nous dit pas d'essayer de trouver cet amour fraternel. Il nous dit de persévérer dans cet amour, de demeurer dans cet amour qui doit exister. Si nous sommes en Christ, nous avons un grand frère, donc nous sommes tous frères et sœurs. Et une des joies, lorsque nous avons des événements comme celui d'hier, c'est que nous avons une communion fraternelle avec des frères et sœurs d'autres églises, d'autres dénominations, avec lesquelles nous pouvons différer sur des points de doctrine, mais on se concentre sur Jésus-Christ, sur l'essentiel, sur la parole. Alors elle est interprétée différemment par les uns, par les autres, mais il y a quelque chose de très riche et de très satisfaisant qui fait du bien d'avoir une salle pleine de personnes venant d'horizons différents, mais qui ont tous un amour de Jésus-Christ et qui le servent de tout leur cœur en faisant de leur mieux pour lui plaire. Et donc cet amour, il existe, et Jésus a même dit dans Jean 13, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est dans ce passage, Jésus fait appel à cet amour agapé, cet amour qui est déversé, Romains 5:5, dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cet amour venu d'ailleurs, qu'on ne peut pas manufacturer tout seul, on ne peut pas le susciter, le fabriquer en faisant des efforts. En se levant le matin, je vais aimer tous les gens qui m'entourent. Je me rappelle que lorsque j'étais enfant, j'étais élevé dans la religion catholique, et je me souviens que avant de recevoir la Sainte Cène, l'Eucharistie, la communion, on appelait ça la communion, on devait se confesser. Le problème, c'est qu'on devait se confesser la veille, le samedi soir, pour pouvoir communier le dimanche matin. Et le moment entre la confession et le moment qui me séparait de la communion, je m'approchais de l'autel et le prêtre me déposait une hostie sur ma langue. Il n'y avait pas de vin, le vin il se le gardait. On nous donnait simplement l'hostie. C'était le moment le plus difficile de ma vie de jeune chrétien. Je sortais, j'avais le poids de mes péchés, c'était un peu toujours les mêmes. On me donnait des actes de contrition à dire, des Notre Père et des Je vous salue Marie, une façon de payer le mal que j'avais pu faire. Et le poids était levé et j'étais libéré. Je me sentais, mais je savais que à partir de ce moment-là, je devais être un petit saint. Parce que si jamais je recommettais d'autres péchés et que je prenais la Sainte Cène, le matin, l'hostie, alors là, j'étais en grand danger de damnation. Et je sortais de l'église où je m'étais confessé dans le confessionnal avec un prêtre qui ouvrait une petite porte qui refermait. Je vois que certains ont connu ça. Et quand je sortais de l'église, je descendais les marches. C'était à Paris, quartier Saint-Paul, l'église Saint-Paul, une église monumentale. Et là, j'essayais de remplir mon cœur d'un amour fabriqué pour tous les gens que je voyais. J'étais plein de « Oh, il faut que j'aime cette personne. Vous voulez que je vous aide, madame? Vous voulez que je vous aide à traverser ?» Puis finalement, je rentrais à la maison et là, ça devenait plus dur parce que je retrouvais les membres de ma famille. Je retrouvais ma petite sœur qui savait où appuyer, sur quel bouton appuyer pour me mettre en colère. Et souvent, je prenais l'hostie en me disant « Est-ce que je vais être condamné ?» Et donc, cet amour que j'essayais de fabriquer, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu, il déverse son amour, et si on le reçoit, on va le manifester aux autres sans essayer de se dire « Oh, il faut que j'aime tous les gens qui m'entourent. Je vais donner de l'argent au SDF. Si on refuse la priorité, je ne vais rien dire. » La conduite est un test pour beaucoup d'entre nous, savoir si on a cet amour ou pas. Mais non, il nous dit simplement de persévérer dans un amour qui existe parce qu'on est relié ensemble à Christ. Il est mort pour nous. Nous sommes frères et sœurs. Donc cet amour, ce n'est pas quelque chose qui se fonde sur une affinité particulière, c'est une relation partagée, le fait que nous sommes de la même famille, et il nous faut même aimer ceux qui ne sont pas aimables, ceux qui ne vont pas nous retourner cet amour. Et cet amour, il doit être pratique. J'essayais d'avoir cet amour dans les sentiments, mais on l'a dit souvent, l'amour, c'est pas une question de sentiments, c'est une question d'action. On peut décider d'aimer quelqu'un qui n'est pas aimable, même si on a du mal avec cette personne, on peut décider de commettre ou de pratiquer des gestes qui vont être des gestes d'amour pour cette personne. Votre patron qui vous détruit la vie à longueur de semaine, vous pouvez l'aimer. À l'occasion de son anniversaire, si vous savez qu'il aime la pêche, vous pouvez lui offrir un livre sur la pêche. Pas besoin d'avoir les, comment dire en anglais, les fuzzies, les sentiments qui vibrent. Alors bien sûr, vos collègues vont dire qu'on est des lèche-bottes, mais peu importe, vous pouvez aimer qui vous voulez, parce que ça ne dépend pas d'eux, ça dépend de vous. Et Jean nous disait, dans 1 Jean 3,17, « Si quelqu'un possède les biens du monde, qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui ?» Il nous faut aider nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Et je dis ça, et je sais que parmi nous, il y a des gens dans de très grands besoins, et ça reprend mon cœur, je dis, est-ce que je ne peux pas faire plus? Est-ce que je ne peux pas, au nom de Christ et au nom de l'amour fraternel qui existe entre nous, est-ce que je ne peux pas aller plus loin? Il parle ensuite de ne pas oublier l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont sans le savoir logé des anges. Donc il y avait l'amour des frères, Philadelphia. Adelph, c'est le frère, ou donc c'est d'aimer son frère, c'est d'où le nom de cette grande ville des États-Unis. Ça venait de la Bible, l'influence de la foi chrétienne sur les États-Unis a été indéniable. Et je crois que c'est ce qui leur a permis de devenir une grande nation, même si on peut regretter que maintenant la foi chrétienne est battue en brèche, elle est moquée là-bas aussi. Maintenant, il nous parle d'aimer les xénos. On parle de certains mouvements politiques qui sont xénophobes. Les xénos, c'est les étrangères. Ils ont la peur, la phobie des étrangers. Ils veulent les stigmatiser. Ils ne veulent pas les aider. Ils ne veulent pas que des migrants arrivent à Breil-sur-Roya et surtout pas qu'ils arrivent à Nice. Même si leur désir, c'est d'aller rejoindre de la famille en Angleterre, il y a cette xénophobie. La Bible nous invite à être des xénophiles, d'aimer les étrangers. Alors ça recouvre les premiers, c'était bien sûr l'amour des frères en Christ et des frères et des sœurs en Christ. Là, ça peut être des étrangers païens qui ne tombent pas dans la première catégorie. S'il y en a des migrants chrétiens, ils tombent dans la première catégorie. Là, on est invité à de ne pas l'oublier. Oups, j'ai oublié d'être gentil avec les étrangers. Et là aussi, je veux vous faire savoir que la Bible, elle accomplit son effet si elle nous reprend tous. Et je suis le premier repris. Je connais des églises, il y a même des frères qui ont des églises en Italie, qui ont un ministère auprès des migrants. En Allemagne, j'ai des églises, il y a des églises Calvary-Chapelle, c'est devenu leur principale activité, ou une activité où toute l'église s'inclut. Ici, je reconnais qu'on n'a pas cherché à trouver des façons de servir ces migrants. Et il serait très simple, et je vous fais une invitation, s'il y en a qui ont sur le cœur de faire quelque chose pour eux, venez me parler. Ça peut être quelque chose d'aussi simple que de donner des bouteilles d'eau fraîche aux migrants. On les reconnaît parce qu'ils sont un peu perdus. Ils sont sur la plage en petits groupes. Il y a même quelqu'un qui campe au bout de la rue. Et je dois dire que je n'ai pas fait de geste envers lui. Et le Seigneur me reprend. Tu peux donner une bouteille d'eau fraîche, tu peux donner un sandwich, tu peux parler à l'autre. Et en plus, la Bible nous dit que c'est une bonne chose que d'exercer l'hospitalité parce qu'on risque de rencontrer des anges. Alors si vous invitez quelqu'un, vous allez peut-être commencer à voir s'il n'y a pas une forme bizarre derrière leur dos, sous leur chemise. Il y a comme deux protubérances, puis il y a des plumes qui tombent par terre. Ça, c'est l'image caricaturale des anges. Non, un ange, c'est simplement un messager. Et ça fait allusion à Abraham. Vous vous souvenez qu'il vivait en terre promise avec sa femme. Il vivait sous des tentes. Et un jour, il y a trois personnes qui sont arrivées, inattendues. Et il les a invitées. Il a exercé l'hospitalité. Il les a invités, il a demandé à sa femme de leur préparer un repas. C'est un peu caricatural des mœurs de l'époque, mais aujourd'hui encore, ce sont souvent les épouses ou les femmes qui ont cette faculté de bénir avec l'hospitalité. Je suis un homme béni parce que j'ai une femme qui donne beaucoup dans l'hospitalité. Et c'est une chose à cultiver et à apprécier. Et à essayer de cultiver, de ne pas l'oublier dans notre propre vie. Est-ce que je suis hospitalier ? Et quoi qu'on fasse, on peut toujours en faire plus. Donc ce n'est pas une question de se culpabiliser, mais c'est une question de ne pas l'oublier. Et c'est vrai que ça demande de prendre un peu sur soi. Si on reçoit quelqu'un chez soi pour un repas, c'est une chose. Si on les reçoit pour une nuit, c'est une chose. Si on les reçoit sans savoir combien de temps ils vont avoir besoin de demeurer chez nous, c'est une toute autre chose. Mais c'est souvent une façon de faire confiance à Dieu, de montrer notre foi, de lui remettre une situation et de dire « Je vais ouvrir ma maison, je vais ouvrir mon chez-moi à l'autre. » Et la référence, là, encore une fois, c'était lorsqu'Abraham avait ouvert sa tente, pas sa maison. Il avait reçu cette promesse de Dieu qu'une grande nation viendrait de lui et de sa femme. Il avait essayé de régler la situation. En fait, l'ange, un ange, ça veut simplement dire envoyé. Quelqu'un qui vient avec une nouvelle, une bonne nouvelle. Ça fait référence aux créatures angéliques, d'une part, mais l'Apocalypse parle des anges des églises, et on pense que c'est les responsables des églises qui sont des messagers qui apportent la parole de Dieu. Et en fait, il se trouvait c'était des anges, et qu'il y avait même l'ange de l'Éternel, qui est un terme qu'on retrouve beaucoup dans l'Ancien Testament, et qui fait référence au Christ préincarné. Et c'est lui qui se manifeste avant d'être venu comme homme par l'intermédiaire de sa naissance à Bethléem par Marie, Christ, on le pense, s'est manifesté, lorsqu'il est question de l'ange, pas un ange de l'Éternel, mais l'ange de l'Éternel, voyez si ça peut pas, ça pourrait pas s'appliquer à Christ lui-même, parce que c'est souvent le cas, et c'est une bonne façon de reconnaître la présence de Christ dans l'Ancien Testament, pas seulement une promesse future, mais un personnage qui vient être, c'est le messager ultime de Dieu. C'est lui qui a, encore une fois, il n'y a pas de messager plus grand que lui. Il est Dieu lui-même et il nous aime au point d'être venu mourir pour nos péchés, pour nous racheter. Et on sait aussi qu'il y avait Manoah qui avait reçu un ange, qui lui avait promis un enfant. Et dans la Bible, on voit souvent des promesses qui sont faites par des anges qui viennent parler aux hommes. Et bien souvent, il faut que ces anges soient reçus dans le cadre de l'hospitalité pour qu'ils délivrent leur message. Et d'une façon plus prosaïque, souvent, Nancy et moi, nous avons reçu chez nous des personnes qui ont été des sources de bénédictions incroyables dans le futur de cette réception. Des gens qui nous ont bénis, qui nous ont appris des choses sur Dieu, qui ont été des messagers de Dieu, qui nous ont encouragés dans le ministère, simplement parce qu'on avait ouvert nos portes et nos cœurs à l'hospitalité. Et il faut dire que c'était une nécessité à l'époque. Il n'y avait pas de chaîne d'hôtel, il n'y avait pas d'Ibis budget, ni de forum, je ne sais plus comment ça s'appelle, Formule 1. Il n'y avait pas d'auberge, ou alors si il y avait peu d'auberges, en général c'était des maisons de passe. Elles étaient très sales, elles étaient très chères, très mal famées. Et donc l'hospitalité entre chrétiens, c'était une nécessité pour tous les prédicateurs itinérants, les prophètes. Et c'était une façon d'assurer la circulation de la pensée chrétienne. S'il n'y avait pas eu cette hospitalité pratiquée de façon forte et constante, l'évangile aurait été ralenti. C'est intéressant même de savoir que je faisais allusion un peu à nos inquiétudes lorsqu'on ouvre nos portes. On sait quand ils arrivent, on ne sait pas quand ils repartent. Alors s'ils sont agréables, et ça peut être une relation qu'on n'a pas envie de voir s'achever rapidement, mais si ce n'est pas le cas, on doit quand même leur ouvrir nos portes. On peut avoir cette peur de voir les gens profiter de nous. Les gens, si on fait preuve de cette hospitalité, et il y avait un commentaire chrétien des premiers siècles, qu'on appelait la Didache ou Didaché, qui était un enseignement mis par écrit de prédication des premiers prédicateurs chrétiens. Cet ouvrage limitait les séjours à deux jours chez quelqu'un. Si quelqu'un restait trois jours, il était considéré comme un faux prophète.
Moi.
Donc c'était peut-être une façon d'encourager les chrétiens. Il y en aura pour deux jours, et s'ils restent plus longtemps, vous pouvez les virer, ce sont des faux prophètes. Je ne sais pas si c'était la raison, mais c'était un texte qui était en circulation. Il y a le proverbe américain, je ne sais pas si on le dit en français, on dit si... Les invités, c'est comme le poisson, au-delà de deux jours, ils commencent à sentir un peu fort. C'est pas très chrétien. C'est un enseignement, encore une fois, tous ces enseignements ne sont pas tirés d'un chapeau comme ça une fois et on doit les appliquer. C'est constamment répété dans la Bible. Donc Galates 6:10, Paul disait, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, païens et non et chrétiens. Et puis il ajoutait, et surtout envers les frères en la foi. Donc, soyez bons avec tout le monde, soyez généreux, pratiquez le bien envers tout le monde, mais surtout, bien sûr, avec vos frères et sœurs en la foi. Puis un troisième domaine où nous devons montrer de cet amour, c'est pour les opprimés. D'abord pour les prisonniers. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonnier avec eux. On a du mal à imaginer ce que c'est que de se retrouver privé de liberté de mouvement, de se retrouver confiné derrière des barreaux. Par la grâce de Dieu, j'ai jamais eu à vivre ça. Et peut-être certains d'entre vous ont connu un peu la prison, pour que ce soit même une mise en examen ou avant d'être interrogé. On m'a offert une fois de passer la nuit en prison. Et j'ai dit non merci. Alors vous êtes curieux, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? En fait, j'ai vécu aux États-Unis pendant de nombreuses années, donc j'avais une carte verte, une carte de résident. Mais une carte de résident, si on ne réside plus aux États-Unis, on doit la rendre à l'administration américaine. Et je revenais après une année passée en France, donc j'étais plus résident, j'avais un domicile ici, certains d'entre vous ont connu, rue Fragonard. Et la douanière, qui était maligne, m'a flatté en me disant « Oh, vous parlez très bien l'anglais, vous avez déjà habité ici ?» J'ai dit « Oui, quelques années. » Elle a dit « Vous avez une carte de résident ?» Et je sais qu'elle avait mon dossier sous les yeux. J'ai dit oui. Elle a dit mais il faut me la. Vous pouvez pas la garder avec vous. Il faut la rendre maintenant. Elle m'a dit si vous contestez cette décision, vous pouvez aller passer la nuit en prison. Et demain vous comparaîtrez devant un juge. Et là j'ai dit non merci. Et j'ai dû rendre cette carte en me disant que je voulais retourner un jour vivre aux États-Unis. Je pourrais peut-être en avoir une, mais j'aurais pu en fait contester valablement, mais j'avais pas envie de, après un voyage fatigué, etc., j'avais pas envie d'aller passer une nuit en prison. Mais beaucoup de monde passe par la prison. Souvenez-vous des prisonniers. Il y a beaucoup de prisonniers qui trouvent la foi en prison par l'intermédiaire de chrétiens qui ont un ministère auprès des prisonniers. Certains d'entre vous se rappellent, connaissent bien Ludovic Soler, un jeune qui est devenu chrétien aux États-Unis lorsqu'après avoir été interpellé pour une histoire de drogue qu'on avait retrouvée sur sa voiture, il avait passé plusieurs années en prison parce qu'il ne voulait pas vendre les gens qu'il avait confié un petit échantillon de drogue. Et là, parce qu'il y avait des chrétiens qui se souvenaient des prisonniers, il a entendu l'évangile et il s'est converti de façon radicale. C'est un ministère difficile, mais sachez, il y en a peut-être aussi parmi vous qui... Quand on est un petit groupe, il y a toujours des gens avec des intérêts. Mais pourquoi on ne fait rien pour les prisonniers? Alors ici en France, il faut être accrédité, mais vous pouvez commencer à... Je peux vous mettre en relation avec le responsable, je crois que c'est toujours le capitaine de l'armée du salut, qui était là hier, et qui peut peut-être vous emmener et vous faire découvrir un peu ce que c'est que le ministère auprès des prisonniers. Il faut le faire comme si on était prisonnier avec eux, d'imaginer ce qu'ils vivent. On a eu il y a quelques années ce pasteur iranien en prison pour lequel tous les chrétiens se sont mobilisés, qui a fait bouger beaucoup les choses, Saïd Abenidi, à Bénigny, et qui en fait s'est révélé être moins digne d'admiration parce qu'il avait des problèmes maritaux avec son épouse, qui pourtant avait organisé toute une campagne. Mais l'idée, c'est ne les oublions pas, ils ont peut-être mérité de la justice des hommes. Souvent, il y a aussi tous les chrétiens persécutés qui vont en prison. Et il suffit de lire les nouvelles, de regarder, de s'abonner à Portes Ouvertes. Hier, certains ont pu signer pour la lettre de nouvelles de l'organisation de Billy Graham qui réconforte les gens et notamment les prisonniers. Il y a plein de façons de s'impliquer pratiquement pour obéir à ce commandement « Souvenez-vous des prisonniers ». Et puis ceux qui sont maltraités comme si vous étiez dans leur corps. Souvent, il y a les chrétiens persécutés. Ils souffrent des choses horribles. Battus, maltraités, laissés pour mort dans des geôles avec des rats, des endroits infestés de puces. C'est une des questions à l'époque pour les auberges. On parlait de l'hospitalité. Des fois, les gens se demandaient, cherchaient l'hôtel, l'auberge où il y avait le moins de puces. Ils ne cherchaient pas une auberge où il n'y avait plus de puces, mais celle où il y avait le moins de puces. Aujourd'hui encore, on peut trouver des hôtels pas très propres, mais ceux qui sont maltraités, souvenez-vous d'eux. Aimez les frères, aimez les étrangers, aimez les prisonniers, aimez ceux qui sont maltraités, et puis aimez nos conjoints. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure, ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Le mariage soit honoré de tous. Le mariage est digne d'honneur. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où le mariage est déshonoré. Il est déshonoré notamment par le divorce. Les gens se marient avec l'idée que si ça marche plus, entre guillemets, entre eux et leur conjoint, il est facile de divorcer. Mais ça fait du tort à la beauté du mariage. Les gens se disent, pourquoi se marier ? Il y a autant de gens qui divorcent que de gens qui se marient en France aujourd'hui. Donc il y a de moins en moins de mariages. Et c'est une façon dont le mariage est déshonoré. Le mariage est déshonoré aussi par les gens qui vivent ensemble non mariés. Et peut-être que parmi nous, il y a des gens qui vivent comme s'ils étaient mariés, mais qui ne sont jamais engagés devant Dieu et devant les hommes pour se donner l'un à l'autre. Et sachez que je vous dis ça pas pour vous juger, j'ai moi-même, Nancy et moi, nous avons commencé à vivre ensemble avant de devenir chrétiens, et je le regrette, mais Dieu pardonne et peut bénir. Mais ce n'est pas une raison pour dire « bon, ben, le pasteur, ça a marché pour lui ». Non, la Bible nous dit « si vous brûlez de désir, mariez-vous ». Ce n'est pas de vivre ensemble à l'essai, sans engagement, sans responsabilité, pour voir si ça marche entre nous. Le problème n'est pas dans votre corps physique, il est dans votre cœur. Si vous avez l'amour de Dieu et si vous voulez vivre toute votre vie avec une personne, Dieu va vous donner toutes les ressources pour le faire sans problème. Sans problème. Vous allez arriver. Dieu va bénir votre mariage. Le mariage est déshonoré aussi par l'adultère. L'adultère, c'est d'avoir des relations sexuelles avec une personne qui n'est pas votre époux ou votre épouse. Le mariage est aussi déshonoré par la négligence de ceux qui sont mariés ensemble. Il y a différentes phases, bien sûr, dans le mariage. Il y a la phase où on tombe amoureux en faisant la vaisselle ensemble à l'église. C'est romantique. Romance dans la vaisselle. Et puis après, il y a ce premier zèle amoureux peut se transformer avec une relation plus mature. Et puis il y a les enfants qui arrivent, il y a la fatigue, il y a les habitudes, il y a le travail, il y a et le danger, si on n'y prend pas garde, c'est qu'on se sépare émotionnellement l'un de l'autre. Et il y a beaucoup de divorces qui arrivent justement après que les enfants volent de leurs propres ailes et quittent le nid familial. Et l'homme et la femme, l'homme et son épouse se retrouvent et ils réalisent en fait qu'ils n'ont pas grand-chose en commun, ils n'ont plus d'intérêt commun, ils n'ont pas de choses qu'ils aiment faire ensemble. Et ils vivent un peu comme des roommates, comme des colocataires dans le mariage. Et c'est une façon aussi de déshonorer le mariage. Le mariage, ce n'est pas une chose qu'on fait une fois pour toutes. C'est quelque chose qui... C'est un engagement, mais qu'on doit renouveler par une attention et un soin de tous les jours. Et c'est une très belle chose. Et si vous voyez qu'il y a une certaine négligence de l'autre qui s'est installée, priez ensemble. La prière pour les couples est très rare. La prière des couples ensemble est très rare. Et c'est un combat pour moi et Nancy que de prier ensemble. Pourquoi ? Parce que l'ennemi sait que si nous prions ensemble, toutes les petits différends, toutes les petites disputes vont s'effacer et qu'il va y avoir... Satan n'aura pas prise sur votre mariage. Mais si vous commencez à... Vous pouvez avoir une vie de prière intense, chacun de votre côté, mais la prière ensemble, qui n'est pas facile souvent, du fait que Satan sait que c'est une arme redoutable contre lui, il faut demander à Dieu son aide pour la cultiver. C'est le lit conjugal épargné par la souillure. J'ai pas fini en fait. La dernière façon dont le mariage est déshonoré, et c'est pas la moindre malheureusement, c'est par la redéfinition du mariage que l'on trouve dans notre culture, dans nos cultures modernes et éduquées, décoincées, ce que vous voulez, mais désolé, le mariage entre gens du même sexe, ça, c'est pas le mariage. C'est peut-être une relation d'intimité réciproque avec une autre personne du même sexe, mais vraiment j'aurais souhaité, par respect pour le vrai mariage chrétien, que l'on n'utilise pas le terme de mariage pour tous. D'autant que ça s'est passé sous la présidence d'un personnage qui disait le mariage pour tous, mais pas pour moi. Et on ne va pas faire de politique et tout, mais quand on dit que le mariage, c'est si on aime quelqu'un, on peut se mettre avec lui, avoir des relations sexuelles entre hommes, entre femmes, et bientôt ça sera pourquoi pas à plusieurs, pourquoi seulement deux, etc., etc. Mais ça, c'est une façon dont le mariage est déshonoré. Le lit conjugal, ça fait bien sûr allusion à l'intimité sexuelle qui doit être la primauté, qui doit se passer dans le cadre du mariage uniquement, encore une fois. Qu'il soit épargné par toute souillure, par la souillure. C'est une façon de dire aussi que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure. Ça peut être au subjonctif ou ça peut être un indicatif, c'est-à-dire que en fait le mariage est quelque chose d'honorable, dont personne ne doit se moquer, que tout le monde doit respecter. Et le lit conjugal est épargné par la souillure. Alors certains disent, en fait, entre un homme et une femme qui sont mariés devant Dieu, il n'y a pas de restriction au niveau de ce qu'on peut faire dans une relation sexuelle, du moment que ça honore Dieu. Et il y a une grande liberté dans cela. Mais il y a aussi le souhait qu'il n'y ait pas de souillure. Et la souillure, c'est tout ce qui est immoralité sexuelle, donc relation sexuelle avec quelqu'un d'autre. Ça veut être aussi, le mot immoralité sexuelle, c'est le mot pornos, pornographie, pornocrate, porno, tout ce que vous voulez. Donc la pornographie qui introduit en vous des images et des idées, c'est quelque chose dont il faut absolument s'abstenir. Alors on vit dans un monde, encore une fois, où on est bombardé, où avant il fallait avoir le courage de rentrer dans un supermarché pour acheter un magazine de charme et d'information. Maintenant, dans le secret de votre ordinateur, vous pouvez avoir accès à n'importe quoi et à tout et à n'importe quoi. Si c'est un problème pour vous, cherchez à avoir quelqu'un qui peut prier avec vous, quelqu'un qui peut vous aider à vous tenir, à avoir un vis-à-vis. Et on me dit que ce n'est pas seulement un problème pour les hommes, bien que les hommes soient très visuels et les femmes le soient moins, mais on me dit que les femmes aussi peuvent être addictées ou accros à la pornographie. Souvent, c'est vrai que le problème pour les femmes, c'est plus un problème au niveau des émotions, d'où le succès des livres genre Harlequin ou des romances. Ce que la femme ne trouve plus auprès de son mari, elle va l'imaginer en lisant des romans, en regardant des films. Mais que l'on sache que Dieu juge ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et bien sûr à l'adultère. Alors encore une fois, ce n'est pas le péché impardonnable. Le péché impardonnable, c'est refuser le secours de Jésus-Christ. Mais c'est un domaine, encore une fois, Dieu a mis en nous un désir sexuel fort pour assurer, c'est un des buts de la sexualité, c'est la reproduction de la race humaine. Pas de bébé, pas de race humaine. Vive les bébés! Alléluia! Et il veut vraiment qu'on honore. On l'honore en respectant tous ces principes d'honorer le mariage, de s'abstenir d'immoralité, d'adultère et toutes ces choses. Il est prêt à pardonner et il veut nous aider et on peut lui demander de l'aide. Et bien souvent, dans ces domaines, c'est important d'avoir un vis-à-vis qui peut vous appeler ou vous envoyer un texto, auquel vous pouvez envoyer un texto lorsque vous êtes dans une situation dangereuse. Et puis il y a des tas de règles, de bon sens. Si on sait qu'on est sensible à l'alcool, il n'est pas bon d'aller faire un ministère auprès des alcooliques dans les bars. Il y a quelques années, on avait un ministère auprès des prostituées, où des femmes allaient aider des prostituées en leur donnant des bibles et en les invitant à prier avec elles. Il y avait des hommes qui d'un coup se trouvaient une vocation pour ce ministère. On leur disait non, c'est peut-être pas une très bonne idée de se lancer là-dedans. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Donc là, c'est le mot a philéo phila argouros, l'argent. Argouros, c'est le même mot, c'est tout ce qui brille. Alors l'or, bien sûr, mais l'argent, tout ce qui brille, tout ce qui... Il ne faut pas que notre conduite soit attirée. Et donc c'est un troisième jeu de mots. Après avoir parlé des frères, des étrangers, ils parlent de l'argent. Et là, dans ce cas-là, on ne doit pas l'aimer. Notre conduite ne doit pas être guidée par l'amour de l'argent, mais on doit se contenter de ce qu'on a. Et ça, c'est donc un grand principe, le contentement. Et la Bible est replète, est remplie de versets sur ce grand thème d'être satisfait de ce que Dieu nous a déjà donné. Et un des ressorts de l'économie moderne, c'est la publicité qui fait vendre des produits nouveaux. Et cette publicité, elle fait appel à cet amour de l'argent, l'amour des choses matérielles. Et donc c'est insidieux dans notre culture. Il faut vraiment apprendre à se contenter. Et quand je vous dis ça, je sais que je suis toujours interpellé lorsque j'ai finalement acquis un produit courant, de voir qu'un an plus tard, il est démodé déjà. Et il va falloir sans doute attendre plusieurs années que je vais passer dans la phase des gens qui ont du vieux matériel. Mais ce n'est pas grave. Même un Nokia 310 ou 3310, c'est formidable de pouvoir contacter quelqu'un. On n'a pas besoin d'avoir un ordinateur dans sa poche. Mais contentons-nous de ce que nous avons. Et la raison pour laquelle, c'est que Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». Dieu qui vous aime va prendre soin de vous, il va être toujours à vos côtés. Souvent, le matérialisme, ce qui fait qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on a, c'est la peur de manquer. Dieu ne nous a pas appris à prier pour notre pain annuel. Il nous a demandé de prier pour votre pain quotidien. Pourquoi ? Parce que ça nous oblige à venir à lui tous les jours. Et qu'en définitive, ce qui compte, ce n'est pas d'avoir un stock de pain qui moisit dans la cuisine, c'est d'avoir une relation vivante avec lui. De savoir qu'on peut compter sur lui, de faire l'expérience que même si on n'a pas de sous, Dieu va pourvoir d'une façon ou d'une autre. Et de voir notre confiance en lui grandir parce qu'il nous a promis « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas ». Et verset 6, c'est donc avec certitude, avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon secours ». C'est pas la sécu. C'est pas les œuvres sociales de la ville. C'est même pas l'Église nécessairement. L'Église devrait s'occuper d'aider ceux qui sont dans le besoin. Elle doit le faire. C'est un commandement aussi. On l'a vu. Mais en définitive, c'est le Seigneur notre secours. Et est-ce qu'on en a bien conscience ? Est-ce que quand on a des peurs de manquer, est-ce qu'on se tourne vers lui ? Dans toutes les situations, on peut lui faire confiance. Il est merveilleux, de fidélité. Et en définitive, on parlait des gens qui sont maltraités, des opprimés. On pense à ces personnes qui sont dans les mains de Daesh, qui sont emprisonnés, souvent qui vont être violés pour les femmes, peut-être pour les hommes, qui vont être mis à mort dans des conditions horribles. Et on se demande comment est-ce qu'ils peuvent vivre ça, comment est-ce qu'ils traversent ces épreuves. Et le secret, c'est qu'ils se disent « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien, que peut me faire un homme ?» Un homme peut nous maltraiter, un homme peut nous prendre la vie, mais si nous avons la foi en Christ, nous avons la vie éternelle. Et souvent je me demande comment je me comporterais si je me retrouvais dans leur situation. Est-ce que je dirais « Oui, non, Jésus-Christ, il y a d'autres voies » ou est-ce que je serais ferme dans la foi ? Et tout ce que je peux faire, c'est prier pour que Dieu me donne, si les circonstances le demandaient, la foi et le courage de donner ma vie pour lui, de mourir au nom de Christ. Et on a des témoignages bouleversants, si vous allez sur Portes Ouvertes ou certains sites chrétiens, où on voit des jeunes enfants qui sortent d'un bus et qui refusent de renier le Seigneur et qui sont mis à mort devant les yeux de leurs parents ou des autres enfants. On comprend pas. Mais ça touche les incrédules, ça touche même les pires ennemis des chrétiens. Prions. Seigneur, Merci pour ces conseils pratiques qui résultent de la vérité de ta parole, de ce que tu nous as annoncé, de ce que ton Saint-Esprit nous révèle. Et Seigneur, tu veux nous voir grandir dans tous ces domaines. Et je te remets ma personne propre pour obéir à ces commandements d'une meilleure façon. Je te remets aussi notre Église, Seigneur. Tu vois que nous pouvons faire des choses ensemble ou avec d'autres églises. Je te remercie pour la formation dans la journée, qui nous a permis de toucher à beaucoup de ces sujets et d'être en meilleure capacité de communiquer ton amour. Je te prie pour les étrangers, je te prie pour nos frères et sœurs, je te prie pour les prisonniers, ceux qui sont maltraités, et je te prie pour que le mariage soit vraiment honoré dans ton Église, Seigneur. Merci parce que toutes ces choses, nous pouvons nous tourner vers toi, Seigneur. Nous sommes à bien des égards coupables de ne pas les appliquer au mieux que nous pourrions. Mais Seigneur, tu veux nous transformer. Et souvent, c'est dans ces transformations que nous trouvons vraiment la joie. Le contentement, il est pas dans le matérialisme, il n'est pas dans avoir toujours plus, mais il est de savoir qu'on t'appartient, Seigneur, et que tu guides nos vies, tu pourvois et tu bénis. Sois glorifié aujourd'hui, Seigneur, dans nos cœurs, dans les églises de cette région, sois béni. Par le nom de Jésus, nous te remercions. Amen.